9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Maître Serran est ravi de vous retrouver en ce samedi 29 octobre 2022 et je vous rappelle que dans deux jours,
ce sera Halloween, mon cher Philippe, on va pouvoir errer dans les rues comme dans Walking Dead et se faire peur. Et ensuite, on aura le droit très bientôt à Noël. Que des fêtes cool qui s'annoncent. Bon, c'est vrai, le musulman que je suis ne devrait pas se réjouir de ces fêtes, mais uniquement du Eid. Le seul truc, si je peux me permettre, et je vais me permettre, c'est qu'avant le Eid, tu dois faire tes preuves en jeûnant pendant un mois. Il n'y a pas à dire, le Eid, ça se mérite. D'ailleurs, mon cher Philippe, j'ai été convié à une soirée Halloween entre confrères, consoeurs et magistrats. Et je suis, au moment où je vous parle, toujours à la recherche d'un déguisement. Le problème, quand on est beau comme moi, c'est qu'il faut chercher longtemps pour trouver un déguisement qui puisse t'enlaidir. Ce qui me rassure, c'est que vu le physique de certains habités, leur déguisement ne pourra pas les rendre plus effrayants. Mais laissons Halloween, Noël et l'Eid de côté pour évoquer l'actualité de la semaine. Actualité marquée par l'affaire de cette fillette de 6 ans, victime d'attouchement sexuel, mais dont tout le monde s'en fout, car ce qui interpelle les gens, c'est la réaction de son père à qui on reproche de s'être fait justice lui-même. On a même parlé de ses antécédents judiciaires, à croire que sa réaction serait liée à son passé. Reprenons les faits rapidement. Un jeune homme passe en pleine nuit par la fenêtre d'une maison, procède à des attouchements sur cette petite fille. La mère le surprend. Le type prend la fuite. Le père et 3 autres personnes font une ronde, trouvent l'intéressé, le rue de coups. Voilà ce qui est reproché à ce père de famille et aux 3 autres personnes qui seront même placées en garde à vue. Tiens, d'ailleurs, sachez que la garde à vue sera le sujet qui sera évoqué aujourd'hui avant que vous soyez invité à poser vos questions. Donc, au moment où j'entends cette info, je suis chez mon ami Nico et 2 de ses potes qui, à eux 3, cumulent de très très nombreuses années de prison. Et Nico me dit: je ne comprends pas, Mourad, pourquoi ce père a fait ça. Alors, je l'ai mis très mal. Hein.
Alors, il y a des effets spéciaux. Mais ça c'est une émission à gros budget. Vous avez vu, on a quelqu'un qui fait les accents aussi.
Mais ça ressemble un peu à
c'est
ça.
C'est un accent quoi que vous faites là? Parce que c'est auvergnat. Parce que...
C'est un accent albanais. Normalement, c'est un accent albanais. Normalement.
Bon, donc, Nico. Donc, oh, les clichés. Donc, oh mon Dieu.
Donc, moi, surpris, oui. Je dis: mais carrément, Nico, tu t'attendris, mon grand. Tu trouves que le père a été trop dur? Non, Mourad, pas assez dur. Pourquoi il a appelé la police? Il aurait dû mettre le jeune dans le coffre voiture et emmener dans un endroit pour le travailler. Et là, pendant une heure, j'ai eu le droit, de la part de Nico et de ses amis, à un concours de celui qui aurait fait souffrir à petit feu cette personne qui a osé pénétrer chez des gens et s'en prendre à une petite fille. Alors, il est difficile de ne pas être d'accord avec toutes ces démonstrations de violence que j'ai entendues pendant près d'une heure, mais... dans une société démocratique, peut-on décider de se faire justice soi-même? Cette mission ne relève-t-elle pas de ce que l'on appelle le pouvoir régalien? Le père a-t-il eu raison d'agir de la sorte? Et je me suis posé la question, mon cher Philippe, et ma réponse en qualité d'avocat est de dire oui, vous avez eu la bonne réaction. Et tout comme mon camarade albanais, je trouve même que vous avez été sympa en prévenant la police, à moins évidemment d'être un moine bouddhiste. Si... vous n'avez pas eu d'avocat passé à la télé, je me serais proposé volontiers d'intervenir auprès de vous, mon cher monsieur. Mais laissons tranquille ce père de famille pour vous inviter à poser vos questions au 01 53 48 3000. Émission sous le contrôle de notre procureur à nous, monsieur Philippe Robichon. À vous, maestro.
Je sais pas ce qui s'est passé sur votre chronique là. Il manquait des mots. Ou...
Vous savez quoi, il m'arrive parfois.
Oui.
Alors c'est peut-être inquiétant. Je sais pas, hein, si on a des personnes qui nous écoutent et qui ont une réponse. Il m'arrive parfois d'avoir pendant une fraction de seconde quelques absences.
Non.
Ouais. Alors c'est un peu flippant. Parce que ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Alors, j'ai pas envie de me faire peur, parce que vous savez que je suis allergique.
Est-ce que vous voulez qu'on en parle?
Non, je veux pas qu'on en parle.
Alors, est-ce qu'il vous arrive de vous, par exemple, de vous promener dans la rue, de ne plus savoir où vous êtes?
Ça m'est arrivé. Ouais. Mais pendant une fraction de seconde, hein.
C'est-à-dire
que
mais ça vous arrive.
Ça m'est arrivé. Et j'ai toujours, alors ça fait sembler curieux, mais je me dis que dans ce cas-là, je passe un coup de fil, j'ai toujours 3 numéros d'urgence et 2 proches de la famille au cas où je serais complètement paumé. Je me dis peut-être qu'à ce moment-là, je serais en capacité de solliciter de l'aide. Alors je sais pas si c'est grave, docteur,
mais bon, il y a peut-être des auditeurs qui peuvent aussi témoigner, partager avec vous, maître Serran. Alors l'actualité de la semaine que vous n'avez pas évoquée, et ça vous ressemble, hein, c'est toute votre pudeur. c'est que Maître Serran, vous l'avez peut-être vu cette semaine, oui, alors Fodi Ben Amri qui réalise l'émission, vous voyez, ça l'intéresse, eh bien Maître Serran fait de l'acrobranche dans la forêt de Bondy. Alors, quand dans la vie, vous croyez que vous avez tout vu, tout entendu, tout fait, eh bien non, Maître Serran fait de l'acrobranche. Et je ne sais pas ce qui m'étonne le plus dans l'histoire. Vous voyez, il y a une vidéo qui circule, Maître Serran.
Oui, bah vous savez que les enfants filment tout, donc oui, j'ai effectivement, enfin mes enfants m'ont filmé, mais c'est sympa comme truc et c'est très physique.
Oui.
Ouais, c'est très sympa et c'est là où on se rend compte que qu'on vieillit puisque. Alors c'est il y a des parcours plus ou moins durs et puis quand vous faites il y a un dernier parcours, c'est le parcours noir hein, c'est comme la piste noire au ski.
Ouais.
Vous êtes à une certaine hauteur et honnêtement, ça peut faire peur et quand vous voyez que les enfants se foutent de tout ça et eux se lancent tranquillement et que vous hésitez, c'est là où je me dis que Maître Serran devient peut-être vieux. Peut-être.
Bon. Et alors vous n'avez pas un costume d'Halloween
non, pas
pour
encore.
Pour l'acrobranche?
Non, l'acrobranche, vous êtes sanglé avec un truc qui vous soulève le fiacre jusqu'à la nuque. Et oui, c'est hyper serré.
Attention, des mots compliqués.
Et c'est hyper serré. Ouais. Mais c'est sympa. En tout cas, voilà, c'est physique. C'est-à-dire qu'on sort quand même en sueur une fois qu'on a fait le parcours.
Très bien. Bon, ceci n'ayant rien à voir avec cela, Maître Serran, nous allons parler de la gave, de la garde à vue ce matin. Déjà, explication de mots, qu'est-ce que ça veut dire garde à vue ?
Parce que alors,
garde à vue, garder à vue,
bah oui,
il doit y avoir quelque chose...
Bah oui, c'est ça, c'est qu'on va effectivement vous garder à vue, c'est-à-dire que je veux avoir l'intéressé dans mon bureau, devant moi. Alors pourquoi ? Pourquoi je veux avoir l'intéressé sous mon regard ? Parce que je vais, en tout cas on va, entre guillemets, soupçonner l'intéressé soit d'avoir commis une infraction, soit d'être sur le point de commettre une infraction. Donc il peut y avoir des gardes à vue, entre guillemets, préventives, c'est-à-dire que quand on a une enquête qui
mais
est
menée...
Mais
c'est légal, ça ?
Ah oui, bien sûr.
On peut faire des gardes à vue, parce que c'est pas justement...
Ah non, si...
quand vous avez fait, normalement.
Alors, quand vous avez fait,
ouais.
C'est-à-dire j'interviens après, mais si à la suite d'une enquête, vous savez, c'est-à-dire qu'un juge d'instruction peut être saisi. Le juge d'instruction, dans le cadre d'une enquête, il peut décider que X ou Y est sur le point de... Alors, on a des écoutes téléphoniques, par exemple, on a des personnes qui sont surveillées. Donc, avant même que vous commettiez l'infraction, j'ai la possibilité, entre guillemets, si j'ai suffisamment d'éléments, évidemment, de vous placer en garde à vue pour vous soumettre les éléments que j'ai sous les yeux et à partir de là, vous interroger là-dessus. Donc la garde à vue, c'est soit j'ai commis des infractions, soit je vais être sur le point de commettre les infractions. Et on peut le comprendre, c'est-à-dire qu'à titre préventif, entre guillemets, je leur dis, il faut quand même des éléments sérieux, mais à titre préventif, c'est justement pour éviter que la société ne soit embêtée par l'intéressé. Donc le placement en garde à vue, c'est cet aspect-là. Alors ça peut se passer gentiment, c'est-à-dire que je peux déposer une petite convocation chez vous, je peux même vous convoquer par téléphone si le commissariat a les coordonnées des uns et des autres. Et puis ça peut se passer de manière un peu plus musclée, c'est-à-dire que je peux aller au domicile et vous interpeller à ce moment-là pour vous placer en garde à vue, donc et vous emmener ensuite au poste.
Mais alors, il y a quoi ? Il y a un texte ? On vous présente quoi pour vous placer en garde à vue ?
Alors, il y a deux manières de faire, c'est-à-dire que d'abord, le texte n'oblige pas. Alors, on va juste vous dire, voilà de quoi vous êtes soupçonné. Donc ça, il n'y a pas de difficulté. Mais après, il y a deux manières de faire, mais là, c'est la pratique policière. C'est-à-dire que vous avez des policiers qui... Alors, soit en fonction de la gravité ou de la non-gravité, soit il constate que le si je viens vous interpeller chez vous, entre guillemets, ça fait paniquer tout le monde. Et je le redis, c'est aussi en fonction de la gravité de l'infraction. Je peux vous expliquer les raisons pour lesquelles, en gros, sans vous donner tous les détails, pour lesquelles on vient vous interpeller pour vous dire, ouais, écoutez, on vous reproche ça, on peut avoir tel ou tel élément contre vous. Et vous avez d'autres policiers qui viennent vous chercher, vous êtes pour vous dire, écoutez, voilà ce qu'on vous reproche, mais vous n'aurez pas le moindre détail, la moindre information entre le moment où je viens vous interpeller et le moment où je vais vous amener au poste de police. Mais on peut le comprendre, c'est-à-dire que si je vous donne des détails et si... en particulier des membres de votre famille sont présents ce jour-là, On se dit qu'évidemment, ça peut mettre à mal l'enquête. C'est-à-dire que vous êtes interpellé, il y a vos frères et sœurs, il y a vos parents, et ben, si je vous dis, écoutez, voilà, on vous reproche telle ou telle chose, on se dit, mais ce serait juste humain que les membres de la famille seraient aussi en capacité de, peut-être, prévenir X ou Y. Donc, ça va dépendre aussi de ça, et le côté, on va dire, musclé ou pas, de l'interpellation va dépendre aussi de la gravité de ce qui peut vous être reproché.
Alors, est-ce que... Alors, la garde à vue, c'est une certaine durée, en gros, c'est...
Alors, le délai normal, et on entend ça très régulièrement, c'est 24 heures. C'est-à-dire qu'on considère que les 24 premières heures, les policiers... Est-ce qu'ils... Dans l'absolu, reste court quand même pour des policiers. C'est-à-dire que dans le cadre de ces 24 heures, le policier doit en principe avoir, j'allais presque dire, résolu un peu cette affaire. Mais cette garde à vue de 24 heures peut être prolongée de 48 heures. Et les 48 heures, c'est le délai de droit commun. C'est-à-dire c'est le délai normal pour une enquête, entre guillemets, classique. Ensuite, où on a, en fonction des infractions, des délais beaucoup plus longs. Vous avez 72 heures, vous avez 96 heures. Ça peut même aller au-delà pour des affaires lourdes, des affaires de trafic de stupéfiants, des affaires de terrorisme. Donc la garde à vue va aussi, en tout cas la durée de la garde à vue va aussi dépendre beaucoup de la nature de l'infraction qui peut vous être reprochée.
Alors je vous pose la question parce que est-ce qu'on peut la contester, si vous voulez, cette garde à vue? Est-ce qu'on peut contester la procédure?
Non, à ce stade-là, non.
C'est un stade où on ne peut pas contester le fait d'être placé en garde à vue.
Non, à ce stade-là, vous n'avez pas de procédure judiciaire qui vous permettrait de contester cette garde à vue. C'est-à-dire que je vais vous placer en garde à vue, encore une fois, de manière, on va dire, classique. Alors, évidemment, je vous disais, pour le policier, 24 heures ou 48 heures, ça peut sembler court, sauf que quand vous êtes le gardé à vue, 24 heures dans un commissariat ou 48 heures, je sais pas, 24 heures ou 48 heures, je change mes vêtements, je mange correctement et puis je prends une douche. C'est-à-dire que parfois, quand vous sortez de garde à vue, voilà, vous êtes épuisé, vous êtes pas lavé, donc vous sentez mauvais. C'est-à-dire que psychologiquement, c'est quand même usant, qu'on le veuille ou non. Et en particulier, nous on le voit beaucoup, quand nos clients sont ensuite renvoyés immédiatement à ce qu'on appelle les comparutions immédiates, c'est-à-dire au bout de 24 ou 48 heures, quand vous les voyez devant le juge, c'est-à-dire là pour être jugé pour leur affaire, les intéressés sont épuisés. Donc c'est vrai que je disais tout à l'heure, et je vais peut-être rectifier, que pour un policier, pour l'enquête, ça peut sembler court. Quand vous êtes le premier concerné, évidemment, 24 ou 48 heures, c'est un timing c'est un timing qui est très très long.
Alors, est-ce qu'on peut vous interroger pendant ces 24 heures?
Alors, le propre de cette garde à vue, c'est justement de faire, autant que faire se peut, la lumière sur les faits qui vous sont reprochés. C'est-à-dire qu'on va effectivement vous interroger. Alors, à partir du moment où je déclare que vous êtes placé en garde à vue, il y a quand même, et le système est bien fait, toute une série de droits qui vous sont reconnus. Et le premier de ces droits, alors qui n'est pas si vieux, hein, puisqu'il date de 2011, c'est l'intervention de l'avocat dès la première heure de garde à vue. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. À partir du moment où vous êtes placé en garde à vue, le policier donc va vous dire est-ce que vous avez entre guillemets un avocat attitré que vous souhaiteriez faire prévenir, et dans ce cas-là, si vous donnez les coordonnées d'un avocat, le commissariat va l'appeler. Il y a pas de difficulté. Souvent on a des clients qui disent ouais mais ils appellent pas. J'ai jamais été confronté à ça. En règle générale, les policiers entre guillemets jouent le jeu. Il faut le reconnaître.
Et puis c'est qu'il y a cette phrase, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Est-ce que finalement les policiers attendent la présence de l'avocat pour vous interroger ou peuvent vous interroger avant?
Alors, il y a un principe, c'est-à-dire que à partir du moment où je donne les coordonnées de mon avocat, ou à partir du moment où je demande à ce qu'un avocat commis d'office me soit désigné, les policiers ont un timing de 2 heures. C'est-à-dire qu'ils doivent attendre, si vous manifestez cette volonté, ils doivent attendre 2 heures. Mais on a parfois des exceptions, c'est-à-dire que le procureur de la République... Et pourquoi je parle du procureur de la République? Parce que toutes ces enquêtes, toutes ces gardes à vue sont sous le contrôle du procureur de la République. C'est-à-dire que l'officier de police judiciaire qui décide de vous placer en garde à vue doit rendre des comptes au procureur de la République. Et en fonction de la gravité de l'affaire, un procureur de la République pourrait décider de vous interroger sans attendre votre avocat. Mais on en revient à ce que vous disiez, c'est-à-dire que on va vous dire, vous avez le droit de garder le silence, hein, cette fameuse formule qu'on entend partout. Et effectivement, vous pouvez garder le silence. Vous n'êtes pas obligé d'apporter des réponses aux policiers. Alors très souvent, c'est de bonne guerre, c'est-à-dire que les policiers vous disent, tu sais, alors. Je tutoie parce que normalement le vouvoiement est imposé, mais on sait très bien qu'en garde à vue, c'est rare que les policiers vous voient. Donc les policiers, pour essayer d'avoir l'information et sembler, alors c'est aussi une technique sympathique, donc ils vous disent, si tu parles maintenant, on parlera au procureur de la République et puis la sanction sera moindre, ainsi de suite. Faut quand même faire attention à ça, c'est-à-dire que le policier est dans son rôle, donc il peut utiliser toutes les techniques et astuces pour obtenir des informations, mais il est quand même fortement conseillé, et en particulier si vous avez un avocat attitré, il est fortement conseillé d'attendre que votre avocat vienne d'abord vous visiter.
Alors, il y a beaucoup de questions sur la garde à vue. On reviendra sur ce sujet dans un instant. Je rappelle que si vous avez des questions juridiques à poser à Maître Serran, eh bien, vous composez le numéro de C'est tout droit. 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, avec Maître Mourad Serran, on parle de la garde à vue ce matin. La garde à vue, c'est inscrit sur vos casiers judiciaires, Maître Serran ?
Non. Si, à la suite de votre garde à vue, puisque c'est aussi une option qu'on n'a pas évoquée, mais qui est possible, c'est-à-dire que on peut vous placer en garde à vue, vous interroger, et puis considérer que il n'y a pas lieu à poursuite. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de mention qui pourrait apparaître sur un casier judiciaire. Sur le casier judiciaire apparaissent simplement les condamnations. La condamnation définitive, elle apparaît. Mais un placement en garde à vue, si ça donne rien, si le procureur de la République considère qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour vous renvoyer devant un tribunal, eh ben, vous êtes libéré. On en reste là, entre guillemets.
Circuler, il n'y a rien à voir. Rachid est avec nous au 01 53 48 3000. Rachid, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour, Rachid.
Bonjour, maître.
Bonjour, Rachid.
Je voulais poser une question. Depuis 2020, ça m'est arrivé des histoires avec mon ex. Je l'ai ramené du Maroc. Et quand il a rentré sur le sol français, un mois à son arrivée, il a commencé à fréquenter des femmes et ils l'ont conseillé d'aller porter plainte pour courir derrière les aides. Et je me trouve qu'elle, pour faire les démarches, les assistants sociaux, ils le demandent de porter plainte si vous voulez qu'on va travailler avec votre dossier. Et voilà, il appelle la police, j'ai rien fait, 2020, janvier 2020, février 2020, avril 2020, ça fait la troisième fois que je passe des gardes à vue, et voilà.
Et il se passe quoi à la suite des gardes à vue? C'est-à-dire que madame, entre guillemets, elle vous reprocherait quoi?
Violence conjugale.
D'accord. Est-ce que au cours de ces gardes à vue, les policiers vous ont dit, bah oui, elle a été vue par un médecin qui dit qu'elle a été frappée, qui dit qu'elle a des bleus, des ecchymoses, des traces. Est-ce que ça apparaît?
Madame, il joue son cinéma, il dit, voilà, il m'a bousculé, il m'a insulté, il m'a poussé.
D'accord, mais est-ce que c'est constaté? Est-ce qu'il y a un médecin qui dit, là, il y a des bleus, donc il y a des ecchymoses.
Non, il y a première fois, deuxième fois, il n'y a rien du tout. Même la troisième fois qu'on est passé devant une autre poste de gendarmerie, et ils ont constaté que madame, il n'a rien du tout.
C'est juste, d'accord.
Je voulais voir, il demande ce document de porter plainte pour le montrer au...
Non, mais c'est ce que vous dites. Ce que vous dites n'est pas faux, monsieur. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand même. Alors, je ne dis pas que c'est le cas pour madame, mais il arrive aussi, en tout cas, il arrive parfois que les personnes qui viennent d'arriver sur le territoire français, et en particulier les femmes, j'allais presque dire par définition, puisque elles sont quand même, dans la réalité de tous les jours, souvent victimes de violences, mais il arrive aussi parfois que vous puissiez aussi tomber sur des femmes qui ont un tout autre comportement et qui vont profiter de cette situation en invoquant une violence de la part de monsieur pour aussi les aider à régulariser leur situation. C'est-à-dire que les autorités préfectorales, j'allais presque dire, accordent aide et protection aux femmes victimes de violences. Donc c'est vrai que ça peut être, alors évidemment et heureusement, c'est pas dans la majorité des cas, mais ça peut être aussi une technique ou une manière de se dire, ça va me permettre d'être régularisé plus facilement. Donc ça s'est déjà vu.
Pour ma situation que je 2020, je confirme que madame est porte plainte 3 jours et revient à la maison.
Mais vous n'avez pas envisagé, monsieur, de vous séparer peut-être tout simplement de madame?
On est séparés, mais malheureusement, elle rentre à la maison, elle revient, mais elle fait ses démarches et suit son planning pour avoir un divorce par faute.
Non, d'accord, mais il n'y a rien qui vous interdit, vous, peut-être pour éviter, entre guillemets, si vous considérez que madame prépare des pièges pour éviter de justement de vous faire piéger méchamment, il n'y a rien qui vous interdit, vous, d'engager une procédure de divorce? Vous avez des enfants en commun?
Oui, on a un enfant de 3 ans. Au dernier moment, on a passé devant le juge des affaires familiales le mois de juin.
Il y a déjà une procédure qui est engagée, monsieur, alors?
Oui, c'est elle qui a fait les démarches.
Je vous pose la question de savoir si une procédure est engagée. Vous me racontez une histoire pendant un quart d'heure pour me dire non. Donc, il y a une procédure qui est engagée.
Elle est engagée là, au dernier moment. C'est le mois de juin. Jusqu'à le mois de juin 2022. Tu vois,
ouais.
Ça, 2020.
Est-ce que vous
2021,
avez un avocat?
Pardon?
Vous avez un avocat pour cette procédure de divorce? Est-ce que vous avez fait appel à un avocat?
J'ai mon avocat et mon avocat, il est au courant de tout ça. Et elle, qu'on a passé devant le juge au dernier moment, le mois de juin, qu'est-ce qu'il a fait? On attend le jugement provisoire pour le divorce. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu à la maison, comme ça. Moi, je lui ai dit, je t'interdis de rentrer chez moi. Je ne voulais pas que tu rentres. Ça fait 4e fois que je veux pas. Ça y est, on a passé devant le juge. Je ne veux plus que tu rentres chez moi. Mais elle rentre, il fait un tour dans la maison, il croit que je suis la jalousie, il croit que je suis avec quelqu'un. Et un moment que j'ai demandé, c'est le jour de la fête, j'ai demandé que je garde mon fils. Il est venu comme ça à la maison, j'ai dit, mon fils, il va rester avec moi. Toi, je sais pas. Elle, il m'a dit, c'est prévu pour moi, je passe la fête avec une copine. J'ai dit, il n'y a pas de problème, tu laisses mon enfant avec moi et tu reviens le chercher soit ce soir, soit demain. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de problème. Il est descendu, 10 minutes après, il monte à la maison, il m'a dit, non, je ne veux pas laisser l'enfant avec toi, je récupère mon fils.
Bon, d'accord, monsieur, mais alors, pardon, on va essayer d'aller peut-être à l'essentiel, parce qu'il y a beaucoup de monde qui appelle, mais est-ce que vous avez une question? On va commencer peut-être par ça. Est-ce que vous avez une question particulière?
Comme ça, il est parti, il a porté plainte, et c'est la 5e fois que je passais une carte d'avis.
Ça, j'ai bien compris, mais. Vous voyez, au moment où je vous parle, j'ai pas de réponse à vous apporter, puisque je pensais que votre procédure n'était pas engagée. Mais à partir du moment où votre procédure est engagée, monsieur, à partir du moment où vous avez un avocat, il est certain que si c'est une fois, deux fois, trois fois, cinq fois convoqué au commissariat, c'est aussi le rôle de l'avocat d'expliquer ça au commissariat pour dire que, voilà, que madame, a priori, raconte des bêtises. Vous savez, les policiers ont aussi autre chose à faire qu'à multiplier des procédures qui serviraient à rien. C'est-à-dire que s'ils considèrent qu'une femme dépose plainte une fois, deux fois, mais que ça repose sur rien, au bout d'un moment, ils vont plus non plus convoquer monsieur. Sauf si y a évidemment des éléments peut-être qui seraient contre vous. Peut-être.
Il a augmenté le dossier, chaque fois il profite de la situation, quand moi j'en veux te porter plainte, tu le prends pas, et elle, c'est direct, tu le prends le plainte, tu viens, je me trouve que je
c'est une réalité. Non mais vous avez raison quand vous dites ça, c'est-à-dire qu'on constate que quand une femme va au commissariat et veut déposer plainte, les policiers le font sans difficulté. Quand c'est un homme, très souvent j'ai des clients qui me disent, le commissaire a refusé de prendre ma plainte, je rappelle quand même. Que le commissariat et la gendarmerie ont une obligation de prendre la plainte de l'intéressé. Il n'y a que le procureur de la République, c'est-à-dire entre guillemets le chef des policiers et des gendarmes, il n'y a que le procureur de la République qui peut lui décidé de classer la plainte et de dire qu'il n'y aura pas de suite donnée à cette plainte, mais le commissariat est dans l'obligation de prendre la plainte. Souvent, on vous dit, faites une main courante. C'est pas la même chose. Donc, quand c'est comme ça, il faut un petit peu insister quand même auprès du policier. Et d'ailleurs, dans tous les commissariats, on affiche justement des règles de déontologie. Et il y a une charte des policiers où on précise bien que le commissariat est tenu de prendre la plainte. Donc, faut pas hésiter à leur tenir, entre guillemets, tête. Alors, dans le respect, évidemment. Mais il faut leur rappeler parfois cette règle-là.
Oui, et je lui ai demandé que j'ai un vidéo qu'on voit madame qui est en train de jouer le cinéma. Il a rien du tout. Il veut pas le voir.
Je sais bien. Je sais que c'est parfois un bras de fer avec les policiers pour, et en particulier quand on est un homme, pour être entendu.
Voilà. Ils veulent pas écouter. Ils veulent pas voir la vidéo. J'ai dit voilà madame, il a rien du tout. Regarde. Rien du tout. Il est sorti. Il a quitté le domicile. Et 48 heures après, il va porter plainte contre moi. Il était pas chez moi. Il dit, ouais, j'ai une brûleur de cigare. Et moi, je ne fume pas. Je ne fume pas le cigare. Et le médecin, il a donné un certificat médical qui dit que c'est un cigare. Et moi, je ne sais pas.
Alors, il y a deux choses, monsieur. On peut constater que madame a peut-être été brûlée par un cigare. Et ensuite, il y a un lien à faire. C'est-à-dire que peut-être qu'elle a été brûlée. Mais encore faut-il démontrer que c'est bien vous qui êtes à l'origine de cette brûlure. Alors, s'il y a une trace, mais si elle n'arrive pas à démontrer que c'est vous, ça s'arrêtera là. Bon, de toute manière, ce qui est important dans ce que vous êtes en train de me dire, c'est que votre procédure de divorce, en tout cas la première partie, est déjà passée. Donc après, à voir avec votre avocat, peut-être pour faire accélérer un peu le truc, pour que ça aille un peu plus vite.
J'ai une affaire que je dois passer au pénal pour la dernière garde à vie. J'ai un jugement la fin du mois de novembre pour ça je dois juger pour que elle, il n'était pas chez moi à la maison. Il avait une.
Ben, il faudra, monsieur, le démontrer. Alors d'abord, il doit y avoir des éléments au dossier, mais c'est à votre avocat de démontrer tout ça le jour de l'audience.
Voilà, Rachid, ce que Maître Serhan pouvait vous dire. Vous avez des questions à poser, vous serez avec nous dans un instant au 01 53 48 3000, hein, puisque vous posez vos questions en direct à Maître Serhan tous les samedis, hein, 9h, 10h, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, nouveau rendez-vous, c'est le samedi que Maître Serhan répond à vos questions juridiques au 01 53 48 3000, 9h, 10h. Notez bien ce rendez-vous, direction Toulouse, et Nora nous attend au standard. Nora, bienvenue.
Allô ?
Bonjour Nora.
Oui, bonjour à vous deux. Je suis dans le métro, mais je vous parle quand même. Voilà, moi j'appelle pour poser une question à Maître Serhan, s'il vous plaît.
Bien sûr, Nora, je vous écoute.
Alors, est-ce qu'un juge peut donner l'ordre de mettre une personne âgée sous tutelle sans avertir sa famille, sachant que cette personne est une Algérienne âgée de 87 ans et qui a toute sa famille en Algérie. Et ils n'ont rien reçu de ce jugement. Et maintenant, ils veulent venir voir leur papa. La tutelle met une barrière, mais alors là, grave. Je l'ai appelée moi-même. Elle me disait, il faut me faire une garantie que comme quoi, le fils, quand il vient, il prend pas le père, il lui demande pas de l'argent, il passe pas la nuit avec lui, il est dans une EHPAD.
D'accord. Alors, il faut savoir quand même qu'avant qu'une personne soit placée sous tutelle. Alors, on peut être placé sous tutelle à la demande d'un membre de la famille, mais il peut y avoir un signalement qui est fait par des services sociaux. Et ça remonte entre les mains du procureur de la République. Et puis, il y a un juge des tutelles qui est saisi. Mais avant de placer quelqu'un sous tutelle, en règle générale, le juge des tutelles va quand même s'assurer, pour que la procédure soit carrée, va s'assurer que le ou les membres de la famille les plus proches peuvent éventuellement assurer cette tutelle. Maintenant, il est certain que si tous les membres de la famille sont au pays, c'est un peu compliqué pour le juge des tutelles de désigner un membre de la famille direct. Et quand soit les membres de la famille sont sur le territoire français, mais pour des raisons lambda, ne peuvent pas ou ne veulent pas exercer la tutelle, et qu'on a personne d'autre, et ben dans cette hypothèse-là, le juge des tutelles va désigner une institution, une association qui va exercer la tutelle sur l'intéressé. Et effectivement, toutes les mesures, toutes les décisions doivent passer par cette institution. Maintenant, oui. La loi est quand même bien faite. C'est-à-dire que s'il y a un litige avec le responsable de cette tutelle, si la personne considère que cette institution exerce ce qu'on appelle un abus de pouvoir, il y a toujours la possibilité pour la personne contrariée de saisir à nouveau le juge des tutelles et dire « Attendez, j'ai un problème avec cette institution. » Et c'est le magistrat qui va vérifier la nature du problème, de la difficulté et qui tranchera. On peut considérer parfois que certaines institutions se comportent de manière abusive à l'égard de la personne placée sous tutelle ou à l'égard des membres de la famille de l'intéressé.
Oui, mais maintenant, les enfants, ils veulent venir récupérer leur papa.
Oui, mais alors, même chose. Oui, mais même chose, c'est-à-dire qu'il faudrait que... alors, dans ce cas-là, il vaut mieux saisir le juge des tutelles, expliquer que ce père donc sera mieux peut-être dans le pays d'origine avec les membres de sa famille, mais ils peuvent pas venir le récupérer comme ça et partir. Ouais, donc il faudrait que qu'ils viennent expliquer leur situation à un magistrat, et c'est le magistrat s'il considère que ça peut bien se passer pour ce monsieur et qu'il sera mieux au pays avec les membres de sa famille, donc qui va transférer la tutelle à l'un des enfants. Mais voilà, en gros, ils peuvent pas débarquer, venir visiter le père et puis repartir avec lui.
Est-ce qu'on a besoin de prendre un avocat?
Alors, l'avocat n'est pas obligatoire en matière de tutelle. Donc après, je dis très souvent, c'est fortement conseillé, mais c'est pas obligatoire.
On peut faire un courrier pour le juge.
Absolument, vous pouvez le juge des tutelles, il peut être saisi par courrier.
Oui, mais vous savez que moi, à ma connaissance, quand on met une personne sous tutelle, il faut d'abord savoir qu'elle n'a personne. Alors lui, il a sa femme.
Oui, c'est ce que je vous ai dit, madame. Je vous ai dit que normalement, encore une fois, un juge des tutelles, entre guillemets, mène une enquête. C'est-à-dire qu'on vérifie d'abord si dans l'entourage, est-ce que, comme vous dites, son épouse, ses enfants, un cousin, peu importe, est-ce qu'un membre de la famille peut exercer ce droit? Donc le juge vérifie d'abord cet aspect-là. Et c'est dans l'hypothèse où les membres de la famille ne veulent pas ou ne peuvent pas exercer cette tutelle que le magistrat se tourne vers les institutions.
D'accord. Et le juge de tutelle, cette histoire, elle est à Grenoble. Est-ce qu'on peut écrire l'adresse juge de tutelle? On n'a même pas vu le jugement. J'ai demandé que la tutrice ou la tutelle m'envoie le jugement qui a été prononcé, elle veut pas. Hein. Deux, ce qui m'a choqué, c'est qu'elle me dit, si vous voulez venir, si son fils veut venir le voir d'Algérie, il faut que moi, je me porte garante, son fils, pour qu'il ne reste pas en France.
Enfin, d'abord, madame, je vois pas comment vous pourriez...
J'ai trouvé ça, c'est très déplacé.
Non, mais je vois pas comment, techniquement, vous pourriez vous porter garante de ce fait-là. Ça n'a pas de sens. Oui. Et puis, la tutelle ne peut pas non plus exiger des conditions qui ne sont prévues par aucun texte. Donc, ça n'a pas de sens.
Je vous assure, et j'ai tout enregistré pour vous dire. Et je lui ai envoyé un mail plusieurs fois pour lui dire de m'envoyer une attestation comme quoi le papa de ces enfants-là est hospitalisé et hébergé chez eux. Alors, le directeur, il me dit, il faut voir avec la tutelle. La tutelle, elle me dit, il faut que je voie avec ma hiérarchie. Et ils étaient en train de me... Moi, pour partir de Toulouse à Grenoble, ça coûte très, très cher. Donc, je suis en train d'écrire. C'est tout. Et j'attendais votre émission ce matin, parce que d'habitude, vous passez entre midi et 1h, je crois, ou entre 11h, midi. Et ça fait très longtemps, je ne sais plus le rentrer parce que je travaille. Et donc, ce matin, je vous ai trouvé par hasard. J'ai dit, tiens, je vais leur poser la question. Maintenant, est-ce que moi, parce qu'on m'a donné une petite procuration comme quoi, je peux me renseigner sur leur papa et tout ça.
Non, madame, vous n'aurez pas d'informations de la sorte. C'est-à-dire, soit la famille diligente, un avocat qui lui fera les démarches, soit c'est un membre de la famille et il doit justifier qu'il est membre de la famille, évidemment, pour pouvoir faire la procédure. Mais voilà, je peux pas donner procuration à monsieur ou madame X pour prendre des renseignements concernant ce type de dossier. Et ça, on peut le comprendre.
Ok. Et l'adresse, c'est monsieur le juge de la tutelle? Comme ça.
Voilà, c'est le juge des tutelles, et puis il faudra écrire auprès du tribunal d'instance du lieu où la tutelle a été prononcée.
Mais je peux pas le savoir. Elle veut rien donner, cette tutelle.
D'accord, mais il habitait où ce monsieur, madame?
Pas Grenoble.
Bon, donc vous.
Et la maison?
Eh ben vous faites ça sur Grenoble.
D'accord. Est-ce qu'il faut faire intervenir le consulat ou on peut régler ce problème comme ça?
Ah, écoutez, enfin, comme dit Ruth, si le consulat pouvait déjà s'occuper de nous faire nos papiers dans des conditions convenables, ce serait déjà une bonne chose. Donc, je ne sais pas franchement s'il y a un service juridique du consulat qui serait alors compétent peut-être, mais qui serait compétent dans le sens où qui prendrait l'affaire au sérieux. Malheureusement, c'est pas certain, mais votre remarque est pertinente. C'est pas exclure si ce monsieur, évidemment citoyen étranger, ça peut-être valoir le coup de prévenir les autorités consulaires. Maintenant, il est algérien, ce monsieur?
Oui, il est algérien.
D'accord. Maintenant, est-ce que le consulat algérien intervienne dans ce type de dossier? La probabilité est, comme on dit, infinitésimale. Mais pourquoi pas?
Je vais essayer. Alors, imaginez, la tutelle, elle me dit, vous savez, il a la maladie d'Alzheimer, il a ceci, cela. Alors, moi, quand je l'ai appelé pour me le passer, il a fallu. On dirait que c'est une prison, cette EHPAD.
Mais, madame, ce que vous dites est pertinent. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui s'occupent de gens qui sont dans des EHPAD, et effectivement, parfois, au moins dans les prisons, vous pouvez faire rentrer des téléphones, même si c'est illégal, essayer de contacter les membres de la famille. Donc, je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup d'abus dans ce domaine-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas leur faire de cadeaux. Et je le redis, quand on a un litige avec ces associations ou avec la personne qui doit normalement s'occuper de la tutelle, faut pas hésiter à revenir devant le juge. Mais vous m'avez dit que vous aviez des enregistrements. Un magistrat pourrait écouter ça.
Oui, surtout, j'ai été vraiment choquée quand je lui ai dit ces enfants, ils ont besoin de voir leur papa. Elle me dit, non, il faut d'abord me faire une garantie comme quoi son père, son fils ne passe pas la nuit chez lui, avec lui, ne lui demande pas de l'argent, ne reste pas travailler en France. Mais c'est de la folie, ça.
Ouais, mais ça, il y a beaucoup, encore une fois.
Des gens qui raisonnent comme ça.
On est d'accord. Je veux pas généraliser, mais c'est malheureusement un milieu où il y a aussi beaucoup d'abus. Et il faut que les membres de la famille soient extrêmement vigilants. C'est-à-dire que ces personnes se comportent comme si elles avaient quasiment un droit de vie ou de mort sur les intéressés. Et vraiment, s'il y a bien un domaine où il faut pas leur faire de cadeaux, c'est dans ce domaine-là. Donc, n'hésitez pas, madame. Encore une fois, la loi est quand même bien faite. Il y a des magistrats pour ça, et le juge des tutelles sera attentif à ce que vous dites et qui peut aussi s'apparenter à de la maltraitance quand on empêche un membre de la famille de venir visiter son père, sa mère, peu importe. Imaginez. C'est aussi la maltraitance.
Elle me dit qu'il a la maladie d'Alzheimer, alors que comme j'ai pu l'avoir par l'intermédiaire d'une infirmière, je lui dis, allô, mon oncle, ça va, tu vas bien? Il me dit, oui, c'est qui? Je lui dis, mais écoute, moi, c'est la petite nièce, tu m'as pas connue, ça fait longtemps, etc. Je lui dis, est-ce que tu te rappelles de tes enfants? Il me les a cités tous. Et je lui dis, ta femme? Ah, il me dit, Ardija, comment elle va? Ça fait longtemps, je l'ai pas vue. 87 ans, il a toute sa tête. Ouais. Et elle me dit, il faut pas lui parler, il est. Et après, elle me dit, si vous venez le voir, que vous le trouvez sale, ou mal, il mange mal. C'est lui, il est comme ça.
Oui, généralement, madame, quand on annonce ça, c'est que ce monsieur, malheureusement, il doit être sale et il doit mal manger. Mais je le redis, ça s'appelle tout simplement de la maltraitance. Et avec ces histoires de Covid où beaucoup de personnes ont eu des membres de la famille dans les EHPAD et autres, et on leur interdisait d'aller voir leurs parents ou leurs grands-parents. on sait comment ça se passe. Voilà, il y a, comme dirait l'autre, il y a des manières plus dignes de s'occuper des anciens. Donc je vous rejoins totalement là-dessus. Hein. Moi, je retrouve pas de circonstances atténuantes. C'est de la maltraitance. Et quand c'est comme ça, faut évidemment pas se contenter simplement des déclarations fantaisistes qui sont faites au téléphone.
Oui. Ok. Eh bien, merci beaucoup, maître.
Merci à vous, madame, pour votre appel.
Et, j'ai oublié son prénom.
Oh, appelez-moi Philippe, Nora.
Philippe, voilà, excusez-moi. Je suis très perturbée ces jours-ci parce que cette affaire me tient à cœur. Franchement, si vous voyez sa femme, et en plus, je lui ai dit, vous donnez un petit peu de retraite, puisqu'il est retraité. Ah non, 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 surtout pas. Ne parlez pas d'argent, madame. C'est juste pour monsieur. Ah, oh, pour monsieur. Moi, je connais les gens qui travaillent, ils ont une retraite, ils ont travaillé toute leur vie en France. Et bien, quand ils sont en retraite, ils se partagent avec sa conjointe ou son conjoint. Oh!
Oui, c'est
incroyable. Moi, je vous dis,
il y a beaucoup d'humains.
Ouais. Oui. Je lui ai écrit le courriel pour lui dire soyez humains. Les enfants, ils veulent voir leur père mourir chez eux, en Algérie. Ils n'ont pas besoin de leur argent, de son argent. Ils sont bien, ils ont des commerces, ils ont tout. Et en plus, le consulat, ils ne donnent pas les visas parce qu'il faut un certificat d'hébergement. Moi, je ne peux pas leur faire un certificat d'hébergement vu que je travaille à mi-temps. Et donc, j'ai écrit au consulat de France en Algérie pour dire que le garçon, il vient pour voir son père et le récupérer si tout est possible. Et ils m'ont dit qu'il faut faire le dossier de visa court séjour. Et on va étudier votre dossier de près.
Alors non, on arrive à la fin de cette émission. Vous pourrez joindre Maître Serrane. Et ça, c'est bon pour tout le monde, hein, le numéro que vous allez communiquer, Maître Serrane.
Absolument, joignable au 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Maître Serrane, qu'on retrouvera samedi prochain, 9h-10h. L'imam Abdelali Mamoun est à la Omra. Donc pas d'islam au présent. Aujourd'hui, je vous retrouve tout à l'heure à 11h pour vos petites annonces week-end.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.